Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus 106.6 FM pour l'émission qui démarre comme chaque mercredi et consacrée à l'Université de Lille. Aujourd'hui, on va parler de langue, on va parler de français, la langue française, comment cette langue est appropriée par des étudiants qui viennent de l'étranger et notamment par des étudiants chinois. C'est tout le projet de cette émission d'une demi-heure, de vous faire découvrir comment, au travers du prisme de la Maison des langues de l'Université de Lille, ils arrivent à s'exprimer en français et prendre maintenant, dès cette rentrée, leurs cours dans notre langue. Vous êtes sur Campus 106.6 FM, www.campusil.com et en DAB+. Voilà, vous êtes sur Radio Campus, donc on va écouter un certain nombre de productions qui ont été réalisées en juin avec des étudiants donc, qui sont venus de Chine et qui, pendant quelques mois, ont commencé à apprendre le français. Donc, ce que vous allez entendre, ce sont des sujets qu'ils ont préparés avec leurs professeurs. Et donc, cette professeure, eux, s'appelle Léonore Berksi. Et on va entendre ce qu'ils ont produit avec elle et ce qui a été enregistré par moi dans le studio de Radio Campus. Donc, vous allez découvrir un petit peu leur univers, comment ils voient le monde, la France, voilà, la philosophie de leur vie aussi. C'est sur Campus 106.6 FM. Bonne écoute.
Je m'appelle Yen Chen, je vous présente les trois étapes de ma vie. Il y a trois étapes de ma vie qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Avant l'âge de 6 ans, je vivais chez mon grand-père. Mes parents étaient occupés à travailler et moi, je louais bien avec mes cousins et ma cousine. Ce sont des très bons souvenirs. Puis après, mon frère est né. Je me suis occupé de lui jusqu'à ce qu'il puisse marcher. Pour moi, c'était difficile de louer à cause de ses pleurs. Cependant, tout a changé par la suite. Après le bac de 2 ans à l'université de Rouen, je suis venu en France. Cette expérience m'a permis de me faire une idée des différences entre la Chine et la France. Mais je n'arrête pas de penser à rentrer chez moi. Si je pouvais choisir un bébé à la maternelle, ça me plairait bien d'être soigné par toute la famille et de ne pas trop penser. Je voulais remercier tout ce que je dois chérir le plus au monde. Ma famille, mes amis, mon pays natal, c'est eux qui sont apparus les premiers dans ma vie. Merci.
Je m'appelle Yuhan. Je vous présente mon article « La vie est la vie ». Voici la mienne. Quand j'étais enfant, j'ai vécu à la campagne dans un très petit village où l'environnement était pas mal. Mais malheureusement, il était très isolé, là où les personnes ne changent jamais. La plupart des habitants ne sont pas intéressés par les nouvelles choses. C'est la première étape et aussi l'obstacle que je voulais surmonter. Après, le temps a passé. J'ai quitté la campagne et j'ai décidé de continuer mes études dans une grande ville et même à l'étranger, loin de ma patrie. Mais après avoir regardé avec passion les différences entre plusieurs pays, je me sens encore vide. Beaucoup de gens sont occupés avec le travail sans réfléchir d'où ils viennent et où ils vont. Parler de littérature et de vie personnelle est en train de devenir une occupation ancienne. Malheureusement, aujourd'hui, on est immergé dans le divertissement moderne. C'est une tendance que personne ne peut changer. C'est la deuxième étape et aussi le deuxième obstacle. La vie continue. Des choses nouvelles sont construites sur les choses détruites. Je voudrais remercier les auteurs pour leurs livres qui m'ont montré le bon chemin. C'est le moment pour moi d'évoluer pour être différent de ce monde moderne. Je suis sur le chemin de la troisième étape. Merci.
Je m'appelle Jin, je vous présente la vie de Jin. C'était un été magique de 1997. Par un éclair dans le ciel, un mignon petit garçon est né. Alors, j'étais assez curieux de savoir comment sa petite tête fonctionnait. Il a exprimé son immense imagination et après, il a commencé à parler et écrire. On ne pouvait jamais deviner ce qu'il allait faire. Dès le moment où il est entré à l'école primaire, il a été populaire, surtout auprès des filles, grâce à sa gentillesse qui m'a aussi charmé. À l'université, il a travaillé dur et a étudié beaucoup, mais n'a pas de petite amie. Pendant une conversation secrète, il m'a dit qu'il rêvait d'aller sur la Lune, comme un astronaute. Il a aussi remercié ses parents, ses amis et ses professeurs pour leur enseignement et accompagnement. Si.
Bonjour, je m'appelle Wen Jie. Je vous présente mes trois vies.
Je vais trouver que sont la solitude, l'amour et la déception. J'ai été célibataire pendant très longtemps. Quand j'étais célibataire, il traînait tout le temps avec moi. C'était la belle époque. J'étais très détendu à ce moment-là. Plus à plus, on est tombé amoureux. C'est un très bon souvenir. On allait à l'école ensemble et on travaillait ensemble. Il avait toujours un petit sourire aux son lèvres. L'amour est divin mais fugace. J'en eus assez de lui. Il ne m'intéressait plus. Les filles sont toujours capricieuses. Quand je regarde un nouveau ours en peluche, je décide de jeter l'ancien. C'est grâce à lui que j'ai vécu une belle époque. Merci, mon petit ours en peluche.
劝请你还给我，我错了，灯红酒绿，不该将你放弃。如果有谁见到我的爱人，请你告诉他，我累了，茫茫人海，爱的原来还是你。
Je m'appelle Jadon, je vous présente ma vie. Il y a 20 ans, j'étais dans un petit bébé. Mes parents m'ont dit que je réagissais lentement comme un capteur. Je pouvais juste réagir à la température, la pression, les choses simples en fait. Après 10 ans, j'ai grandi. Je suis devenu un enfant. Je pouvais réfléchir à des questions et apprendre des connaissances générales. Je pouvais communiquer avec les adultes. Mais comment pour cette équation E égale MC carré, je connaissais le résultat, cependant, je ne savais pas l'expliquer. Maintenant, je suis un jeune qui peut rechercher des explications et des solutions. Si je pouvais choisir, je voudrais devenir une puce. Elle peut mémoriser beaucoup de choses et calculer très rapidement. Je voulais remercier le prof qui m'a conseillé de chercher des explications.
Je m'appelle Yun Shen, je vous présente la vie avec un ballon. Chacun a une vie unique. Moi, quand je venais de commencer à marcher, j'aimais jouer dans mon petit jardin. Un jour, j'ai trouvé un ballon. Il m'a accompagné toute mon enfance. J'étais heureux de trouver ma passion dans ma première vie. J'ai appris à jouer au ballon et je suis devenu de plus en plus fort.Alors que mon ballon est parti après plusieurs années. Je cours sur le terrain de foot. Je cours pour atteindre mon but. Je cours pour atteindre mon rêve d'enfance. Je cours pour atteindre ce que les autres espèrent et attendent de moi. C'est tellement fatigant, mais je ne veux pas m'arrêter. Je crois que je vais retrouver mon ballon si je continue à courir.Et après, je le dirai au but. Je voulais remercier mon ballon de son apparition et sa disparition. Merci.
如果有 谁捡到我的扣弦，请你还给我，我累了茫茫人海，爱的还是你。
Voilà, sur Radio Campus 106.6, dans le magazine donc consacré à l'université, Campus Lille Info. C'était donc plusieurs séquences enregistrées avec des étudiants chinois qui ont travaillé pour apprendre le français à la Maison des Langues, avec notamment ici leur professeur Léonore Bergsi, et donc qui sont maintenant, en septembre à la rentrée, hein, dans leur formation à l'université, dans leur discipline. Donc, pour parler un petit peu de comment on s'adapte en France, bien, j'ai invité un étudiant chinois qui est dans le studio. Il s'appelle Huang Xi. Donc, Xi, c'est son prénom, donc on dit Huang Xi en général. Hein.
Bonjour à tous, bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Huang Xi, c'est bon, la prononciation c'est très bon.
Donc Huang Xi, tu viens de quelle ville en Chine?
Je viens de Canton. Canton, c'est une ville pas loin de Hong Kong, donc c'est au sud de la Chine.
Donc c'est une ville immense, on va dire ça?
Oui, c'est une très grande ville, c'est la troisième grande ville de la Chine.
Et tu as choisi de venir faire des études en France?
Oui.
Tu as appris le français?
Oui, donc, ça va.
Tu n'as pas suivi cette filière de la Maison des Langues?
Non,
non,
non, non, non.
Tu as une autre voie, c'était quoi?
Oui, j'ai appris le français, l'Alliance française de Canton. D'accord. Donc c'est une organisation qui est un cours de la langue française. Et donc j'ai suivi un cours pendant 2 ans à Canton. Et après, je suis venu en France pour continuer mes études en licence en première année. Et je suis maintenant à l'ESJ.
Alors, quand on parle de licence, tu es inscrit dans quelle licence à l'université de Lille?
Moi, je fais. D'abord, je fais journalisme à l'ESJ, mais parallèlement, c'est l'Académie ESJ. Donc, il faut aussi choisir une licence dans 3 universités lilloises. Et donc, j'ai choisi ICAS. ICAS, c'est Industrie, Culturelle, Arts et Société, à Lille 3.
D'accord. Donc, on a beaucoup d'étudiants de l'ICAS. Hein. Certains d'entre eux vont faire des émissions en janvier. Ils se préparent. Ils sont en licence 3. Oui. Toi, tu es en licence 1.
Oui.
Et donc, tu as un double parcours avec ce parcours Académie ESJ. On pourrait détailler, mais on n'aura pas forcément le temps aujourd'hui. Oui. Mais l'idée, c'est que tu aies des cours à la fac, plus des cours qui te sensibilisent au journalisme.
Oui.
Donc en L1, c'est un peu large. Et l'année prochaine, normalement, tu devrais apprendre un peu les bases de la radio et du web.
Oui, c'est ça.
Donc, premièrement, la langue, là, on sent que tu maîtrises quand même bien. 2 ans, c'est ça, hein, ton apprentissage?
Non, 2 ans, je pourrais mieux faire, mais...
Tu pourrais mieux faire en 2 ans?
Je pourrais mieux faire en 2 ans, mais
c'est
là,
j'ai pas mal, ouais.
pas très bien français, en fait.
Qu'est-ce qui est plus dur pour toi? C'est de parler, de comprendre ou d'écrire?
Je pense que c'est parler. C'est vraiment de parler. Parce que là, en Chine, on n'a pas beaucoup de français avec qui on peut parler. Et on apprend avec le professeur. Et donc, le professeur, il va prendre soin de nous. Ça veut dire que quand on a des problèmes, on peut toujours dire pardon, professeur. Mais là, quand je suis venu en France, j'ai rencontré mes camarades, mes professeurs, les professeurs qui donnent des cours pour les Français. Et là, je ne suis pas toujours demandé au professeur ou à mes camarades de répéter ce qu'il veut dire. Et donc, c'est un peu compliqué pour moi de comprendre et de parler. Et là, avec mes camarades, je pense que le français que j'ai appris dans les livres, ce n'est pas tout à fait la même chose que le français qu'on utilise, qu'on parle tous les jours avec mes camarades, avec les personnes. Donc c'est ça le problème. Parfois, mes camarades, ils n'arrivent pas à m'entendre et parfois c'est moi qui ne peux pas entendre ce qu'il veut dire.
Donc ça, c'est pour tous les étudiants étrangers. Quand ils arrivent dans une autre langue, forcément, ils demandent peut-être qu'on parle plus lentement, qu'on articule mieux, voire qu'on répète certains mots compliqués.
Voilà.
Ça, c'est pas facile hein, pour les professeurs de se mettre à niveau comme ça. Hein. En France, on fait le cours. Alors, tu m'as dit aussi avant, quand on s'est vu cette semaine, hein, que en Chine, il y a beaucoup de cours qui sont faits où on voit des choses sur des écrans. Et que ici, c'est plutôt des cours oraux. Et donc, on a du mal à suivre ce qui est dit. Il n'y a pas de support physique.
Oui, voilà. En Chine, je pense que c'est pareil tout le monde. C'est pareil partout. Quand j'étais au lycée, mes professeurs, ils tenaient des cours, mais toujours avec le PowerPoint sur l'écran. Donc moi, nous, on pouvait toujours regarder sur l'écran, de chercher les informations assez importantes sur l'écran. Et ça, c'est assez facile pour nous de suivre le cours et de prendre des notes. Mais bon, en France, quand je suis revenu en France, c'est pas très facile pour moi. Tout d'abord, je ne parle pas très bien français et je ne vais pas toujours entendre 100% français. Et ce qui est encore pire, c'est que je trouve que les professeurs français ils n'utilisent pas trop le PowerPoint. Et les professeurs français, ils donnent le cours plutôt avec la parole. Et il parle tout le temps, il parle pendant 2 heures. Et là, parfois, je me sens perdu.
Alors, petite question. Est-ce que tu enregistres les cours? Tu les réécris en partie après ou pas?
Oui. Non. Maintenant, non. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Chinois qui font ça. Mm-hmm. Et moi, j'ai un camarade japonais. Mais c'est moitié japonais, moitié français. Et lui, il enregistre le cours. Mais moi... pas encore, mais je pense que c'est nécessaire.
Tu vas devoir, ouais, oui, je pense, je vais devoir pour faire des synthèses. Parce que tu sais, quand on parle, quand on est professeur, on parle, et dans ce qu'on dit, il y a des choses qu'on peut enlever, c'est pour faire les liaisons, etc. Oui. Donc, en termes, sur une heure de parole, peut-être tu as un quart d'heure vraiment utile à concentrer après dans un compte-rendu, tu vois. Donc, je pense que prendre des notes, bien sûr, par écrit, tu peux, mais aussi avoir le support de l'enregistrement, puisque maintenant, on a des téléphones, on peut enregistrer dessus. Ça te permettrait d'avancer assez vite.
Mais le problème est que après 2 heures de cours à l'école, c'est déjà trop fatigant.
Oui, bien sûr.
Oui, parce qu'en Chine, on a toujours des petites pauses entre tes cours. Donc, les cours ils durent normalement pas plus de 40 minutes. Et 2 heures de cours pour nous, c'est assez compliqué. Et donc, après, la seule idée à la maison, c'est dormir. Mmh. Et donc, tu as plus envie de réécouter ce qu'il a dit le professeur à la maison. Mais bon, il faut quand même une bonne attitude pour travailler, pour progresser. Et donc, il faut faire ça.
Bon, mais je pense que ça, c'est au démarrage, puisque là, tu as repris les cours. Enfin, je veux dire, tu as démarré tes cours en français, que dans 1 mois ou 2, on se revoit régulièrement maintenant. Hein, on a pris date. Tu vas progresser très vite et tu vas mieux assimiler ce qui va être dit.
J'espère.
Voilà. Mais écoute, merci pour ton témoignage. Donc, on se retrouvera de temps en temps. On fera le point dans cette émission ou dans d'autres sur Radio Campus. Je voudrais signaler aussi l'émission Ondes de Chine qui, le premier samedi de chaque mois, traite justement de l'accueil des étudiants chinois et de la culture chinoise. On aura le plaisir d'ailleurs de t'y retrouver dès le premier samedi d'octobre, le 6 entre midi et 13h. Merci beaucoup. Très bonne journée.
À la prochaine.
Thank you. 近的你不知在何方，你曾给我的温暖感觉依然在我心。如果再见你，又是怎样的情景？会不会将你再次拥进我怀里？
Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Retrouvez bien sûr, comme chaque mercredi, cette émission Campus Lille Info avec d'autres sujets la semaine prochaine entre 16h et 16h30. 16h30, c'est l'heure du magazine Quoi de Neuf qui démarre jusque 18h. Aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs sujets. Nous irons dans quelques instants faire un petit tour, j'allais dire presque en avant-première. Hein. Hier, c'était la visite de presse de l'exposition Amour au Louvre-Lens. On va écouter de quoi il est question dans quelques instants. Ensuite, nous aurons nos invités réguliers, on va dire, de la ferme d'en haut, qui donc participeront à la programmation de ce trimestre, hein, à la ferme d'en haut, qui nous rejoindront vers 17h. Après 17h, vers 17h30, eh bien, nous irons au Frénois avec la nouvelle exposition du Frénois qui s'appelle Panorama. Alors, chaque année, c'est Panorama. Hein. Donc là, on en est à la 20e édition. Et chaque édition, c'est l'occasion de présenter les travaux des élèves de cette école qui bénéficient du soutien, du tutorat, on va dire, de grands professionnels, artistes professionnels. Donc, on va écouter l'un d'entre eux, un de ces élèves, qui a produit une œuvre et va nous expliquer tout à l'heure à 17h30 de quoi il est question. Bonne écoute du 106.6 FM, www.campuslille.com. Alors on va mettre un petit peu de musique maintenant, si vous le voulez bien, et on se retrouve tout de suite après pour donc cette première séquence qui sera consacrée à l'exposition Amour au Louvre-Lens, tout un programme. Voilà, donc hier c'était la visite de presse et sans doute même l'ouverture, vernissage on appelle ça, de la nouvelle exposition du Louvre-Lens consacrée à une thématique quand même très sympathique, amour. Donc cette exposition a été mise en place par les personnes chargées de la mettre en place, hein, donc les commissaires de l'exposition. L'un s'appelle Zef Gourarier, directeur scientifique et des collections du MUCEM. Nous aurons l'occasion de l'entendre par la suite, dans les prochaines semaines. Et une autre commissaire, s'appelle Dominique de Font-Réau, qui est directrice du musée Eugène Delacroix et donc co-commissaire de cette exposition Amour. Nous l'avons retrouvée à l'issue de cette présentation à la presse de l'exposition. Et voilà, Nous lui avons bien sûr posé quelques questions sur Campus 106.6, c'est bien sûr une exclusivité.
Donc je suis Dominique de Fonréau, je suis directrice du musée Eugène Delacroix à Paris et une des commissaires de l'exposition Amour ou Louvre-Lens.
Amour, vaste sujet, on revient presque à la genèse de l'amour.
Alors la genèse de l'amour, c'est un sentiment à la fois fort, puissant et fragile, si on peut dire ainsi, et puis à la fois, si on peut dire aussi, à la fois toujours singulier et toujours universel. Toujours singulier parce que quand on est amoureux, on a toujours tous l'impression que c'est la première fois et la seule fois et que les autres, c'est pas pareil, mais bon, on a tous ressenti ça. Et en même temps universel parce que je crois qu'on ressent tous cela à un moment ou un autre de notre vie. Donc évidemment, on touche à quelque chose de très profond. Ce qu'on montre ici, c'est aussi moins l'amour lui-même qui se vit d'une certaine manière que la manière dont il a pu être représenté et la manière dont, la façon dont il a été regardé s'est nourrie de ces représentations. Et on a la chance d'avoir vraiment eu des prêts exceptionnels qui permettent de montrer qu'il y a différentes périodes dans la manière dont l'amour est considéré et que finalement, cette manière de considérer l'amour et ses représentations, c'est aussi une manière de considérer l'individu elle-même ou lui-même, que ce soit homme ou femme, par rapport à cet amour. Et il y a finalement l'exposition, elle parle aussi de cette conquête, si on peut dire, de l'autonomie de l'individu par rapport à l'amour, du fait de pouvoir choisir ses amours, ce qui n'est pas toujours allé de soi, évidemment, du fait de pouvoir contenir à la fois ses passions ou ses exigences, qui malheureusement n'est pas toujours allé de soi, qui ne va pas toujours de soi, et qui montre aussi finalement que l'amour profond, celui qui nous porte, c'est celui qui est fondé sur la rencontre. Et ça, que cette rencontre, d'ailleurs, après, il y a différentes interprétations, mais que cette rencontre soit une rencontre plus libertine ou plus impliquée, mais en tout cas fondée sur cette rencontre et cette reconnaissance.
Donc l'amour, a priori, beaucoup ici entre l'homme et la femme ou entre la femme et l'homme, mais on voit aussi clairement que dans l'histoire, il y avait d'autres conceptions.
Absolument. Ça me semble très important à dire. Il va de soi que l'amour homosexuel est absolument fondamental et qu'il est, quand il n'est pas montré ici, c'est parce qu'on n'avait pas de représentation adéquate. Chaque fois que ça a été possible, on les a montrés, évidemment. Et dans la pensée grecque initiale, avant la séparation des êtres que Platon décrit, on peut être à la fois femme-femme, homme-homme ou homme-femme. Et donc la moitié qu'on peut rechercher, ça peut être un homme quand on est un homme, ça peut être une femme quand on est une femme. Et comme on est sur les manières d'aimer, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée et que je me suis beaucoup posée notamment. Ces manières d'aimer ne sont pas fondamentalement différentes. Et la victoire, par exemple, de l'amour romantique dans notre société depuis le 19e siècle, puisque ça perdure, c'est quelque chose qui touche tous les types d'amour, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. On est finalement tous empris dans ce désir d'un amour qui nous porterait au-delà de nous-mêmes et dans lequel on pourrait se fondre, qui est magnifiquement représenté notamment par la très belle sculpture de Camille Claudel, La Valse, qui est vraiment une des très belles œuvres de cette section présentée dans l'exposition.
À partir de quand, dans la peinture française par exemple, on voit apparaître l'amour en tant que sujet ?
L'amour en tant que sujet, il faut attendre vraiment cette reconnaissance de l'individu. Donc je dirais l'amour en tant que sujet, c'est vraiment à la fois alors, dans la peinture, dans les livres, donc par les enluminures et dans la tapisserie, je dirais que c'est vraiment au moment du 15e siècle, au moment de ses premiers romans courtois, donc 14e, 15e siècle, c'est à peu près dans ces éléments-là, où l'amour devient un véritable sujet. Mais l'amour devient un des grands sujets de représentation au 17e siècle notamment, avec, et c'est un peu paradoxal parce que Louis XIV, c'est aussi le roi de la guerre et le roi des conquêtes, on le sait bien, mais c'est aussi le roi des îles enchantées, des menus plaisirs et aussi de ces fêtes dédiées à l'amour. C'est intéressant voilà, de voir que tout ça n'est pas du tout univoque, qu'on peut être à la fois le roi de la conquête et on peut être aussi le roi aussi qui célèbre cet amour. Et ça me frappe beaucoup, on en parlait tout à l'heure avec Zeph Gourarier, qui a pensé cette exposition et qui m'a invité à y participer. C'est intéressant de se dire que au XVIIe siècle, les histoires d'amour se racontent par des femmes. Je ne sais pas, Madame de Scudéry, Madame de Lafayette, par exemple, Madame de Sévigné aussi, et se racontent aussi par des hommes. Et je pense jamais sans émotion à Jean Racine, qui, dans Bérénice, par exemple, qui n'est dédié qu'à l'amour. Bérénice, c'est une tragédie dans laquelle il n'y a qu'une histoire d'amour. Dans la dernière long monologue de Titus à la toute fin, c'est Titus, un homme, qui dit son amour profond pour Bérénice, auquel il doit renoncer. Donc il y a vraiment, à ce moment-là, quelque chose qui se fonde sur l'amour comme puissance et l'amour comme rencontre, enfin comme quelque chose qui unit deux individus souverains, si je peux dire comme ça.
Est-ce qu'il y a des moments révolutionnaires dans la représentation de l'amour ? Et est-ce que la Révolution française, par exemple, a apporté une certaine contribution ou pas du tout ?
Je dirais non. Alors oui pour la première question, pour l'évolution, et un peu non pour la Révolution française, pour être plus précise, pardon. Révolution, oui. Je pense que par exemple, ce qui se passe au XVIIIe siècle avec des enjeux de représentation fondés sur le libertinage comme action, mais aussi fondés sur une philosophie qui promeuve le libertinage aussi par une idée de pleine possession de l'individu de ses moyens et aussi de dissociation par rapport à la divinité, c'est une véritable révolution. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, on l'évoquait, que le XVIIIe siècle reste toujours aujourd'hui comme une sorte de modèle. Quand on s'y réfère, que ce soit en 68, que ce soit plus récemment, on se réfère toujours à cet élément-là. Donc oui, pour cette révolution. Non pour la Révolution française, qui malheureusement, si je peux le dire en tant que femme, est plutôt assez conservatrice et assez patrimoniale, au sens premier du terme. Finalement, la Révolution française ramène, après quelques exemples fameux, ramène une société très patriarcale. Après, une fois que la Révolution est achevée, après le Consulat, avec l'Empire, c'est vraiment, et le Code Napoléon le dit bien, on ramène quelque chose de beaucoup plus patriarcal que ce qui se passait au XVIIIe siècle. Donc la Révolution n'est pas révolutionnaire de ce point de vue-là. Elle ne l'est pas, sans doute, parce que la Révolution française, qui est une révolution bourgeoise, comme on le sait tous, c'est pas une révolution populaire, remet en jeu quelque chose d'assez fondamental, c'est-à-dire le respect de la préservation des acquis et qui oblige du coup à de nouveau une préservation de la lignée. Et donc d'une certaine manière, la femme, bien sûr, à ce moment-là, peut choisir son époux beaucoup plus facilement, elle peut faire un mariage d'amour beaucoup plus facilement, mais une fois qu'elle l'a fait, il vaut mieux qu'elle le fasse dans son milieu, sinon il ne sera pas autorisé, mais une fois qu'il est fait, il faut qu'elle s'y cantonne. Il n'est pas question qu'elle aille voir à l'heure pour les mêmes raisons. Moins des raisons morales, à ce moment-là, que des raisons vraiment patriarcales et patrimoniales. Il faut qu'on soit sûr que la fortune soit transmise. Donc la Révolution française n'est pas révolutionnaire, malheureusement.
Et donc la bourgeoisie, qui avait peut-être aussi les moyens d'accompagner les artistes, voire de commander aux artistes, elle avait aussi un rapport assez net avec la religion, qui gardait un certain cap à l'époque.
Oui, qui gardait un certain cap. Le 19e est évidemment un siècle de renouveau des ordres ecclésiastiques, ça c'est tout à fait vrai. Mais c'est aussi vraiment, et surtout peut-être, les enjeux romantiques avec cette espèce de, dans lequel on est toujours d'ailleurs, d'idéal amoureux, qui est celui ou celle qui correspond complètement à notre idéal et pour lequel on est prêt à se fondre, dans lequel on est prêt à se fondre, dans lequel on est prêt à s'oublier soi-même. Et c'est un modèle qui est toujours très vivant aujourd'hui. Regardez les contes de fées qu'on montre à nos enfants, ils finissent toujours par ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, comme si finalement toute l'histoire importante se passait avant le mariage, mais une fois qu'ils étaient mariés, ils étaient fondus dans un même ensemble et plus rien ne se passait. Et on le sait bien, je ne suis pas psychanalyste ni sociologue, mais on sait bien les dangers qu'applique une telle fusion, une telle complexité. Et je pense que c'est important, et c'est ce que montre l'exposition, elle montre que c'est une construction mentale, que ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Et donc ça permet des questionnements, qui me semblent aussi assez forts pour notre temps d'aujourd'hui.
Donc cette exposition Amour, elle couvre pratiquement jusqu'à l'ère contemporaine avec notamment Niki de Saint-Phalle.
Exactement, avec Niki de Saint-Phalle et avec quelque chose de... Niki de Saint-Phalle, c'est une grande créatrice et qui, dans le rapport à la chose amoureuse, on le sait, est dans la tension, puisque vous le savez, elle a à la fois vécu des choses très douloureuses, de viol, d'inceste dans sa jeunesse, mais elle a aussi transcendé ces éléments-là dans son amour avec Jean Tinguely. Et on a la chance de présenter une œuvre absolument splendide, cette Vénus, qui est une sorte de mère de toutes les nanas de Niki de Saint-Phalle et qui est absolument remarquable. Et l'exposition se clôt vraiment par, d'une certaine manière, notre jeunesse contemporaine pour beaucoup, puisqu'on présente et on entend des chansons d'amour des années 1960-1970, de Michel Delpech, de Barbara, de Dalida. Et donc, c'est aussi une manière, comme les films d'ailleurs qu'on projette dans l'exposition, de montrer que cette histoire est une histoire qui se compose avec le grand art, mais que les arts populaires, auxquels moi je tiens beaucoup, se sont aussi construits dans la même histoire.
Donc par rapport à cette exposition, est-ce qu'il y aura des temps forts où on pourra peut-être mieux comprendre, aborder certains points?
Absolument. Alors il y a toute une très belle programmation, hein. Je ne la connais pas par cœur, je vous engage à aller regarder sur le site du musée du Louvre-Lens, mais avec des grands moments. On a notamment un certain nombre de scansions sur à la fois des enjeux de représentation, du désir, du plaisir, avec des conférences. On aura des débats aussi organisés pour les adolescents. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes gens, pas seulement, mais je pense que c'est important que des jeunes gens et des jeunes filles de 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans viennent dans cette exposition, justement. Et il y aura des débats qui seront organisés pour eux. Il y aura un grand bal, je crois que c'est le 1er décembre, le bal de l'amour, qui sera aussi une occasion de rappeler combien la danse est quelque chose de fondamental, à la fois dans la rencontre amoureuse, mais aussi dans la gestuelle amoureuse. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, des concerts, enfin j'oublie des choses, mais il y a toute une programmation. Je vous engage à regarder sur le site du musée.
Voilà, c'était donc au Louvre-Lens hier pour cette exposition consacrée à un thème quand même, à l'amour. Voilà, un thème éternel. Et donc je vous propose bien sûr d'y aller. Hein. Le Louvre-Lens, c'est très simple. Hein. C'est assez fléché quand même. Hein. Quand vous entrez à Lens, vous voyez Louvre quelque part. Et donc dans ce lieu, il y a l'exposition actuelle qui est une exposition temporaire, mais vous avez aussi les collections habituelles du Louvre-Lens. Donc les collections habituelles sont gratuites à la visite. Celle-là, elle est payante, je sais pas le prix. Vous allez sur le site du Louvre-Lens et vous trouvez toutes les infos. Je voudrais bien sûr remercier Dominique de Fonréau, qui est directrice donc du musée Eugène Delacroix à Paris. Et donc qui vous a présenté tout cela de A à Z. On aura l'occasion sans doute d'y revenir avec Zev Gourarier un jour, qui est directeur scientifique des collections du MUSEM et qui est le co-commissaire de cette exposition. Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, www.campuslille.com et en DAB+.